Nous reprenons alors ce que je disais. Donc l'apôtre Paul est probablement 6 ans à Rome. Il a eu des nouvelles par le frère Epaphras. Qui lui a rapporté ce qui se passait à l'assemblée de
Colosses.
Alors il a décidé de lui d'écrire une lettre à l'assemblée. Il a aussi écrit la lettre à Éphèse dans le même temps. Et aussi la lettre à Philémon, chez qui se rassemblait probablement l'assemblée de
Colosse.
Ces trois lettres vont être envoyées par le. Ils vont faire le trajet, ses frères. Par le frère
Tichik,
avec le frère Onésime, qui était de
Colosse.
Le frère Epaphras étant emprisonné avec l'apôtre Paul, il ne pouvait pas l'apporter. Cette lettre devait être aussi lue par les assemblées qui étaient proches, comme
l'Odyssée.
Et la lettre de Éphèse a probablement parvenu à l'Odyssée et ensuite à Colosse. Il y avait aussi une assemblée proche à Hierapolis. On le voit à la fin du livre. Maintenant, nous revenons dans le texte lui-même. Nous avions vu que il y avait certains problèmes à l'assemblée de
Colosses
qui étaient influencés par la philosophie grecque. Et aussi par des juifs qui voulaient instaurer des rites. Et c'est à cela que l'apôtre Paul va répondre. Nous avons vu hier que l'apôtre Paul commence par des remerciements, une prière. Pour la foi, l'amour et l'espérance que les Colossiens avaient. Dans le chapitre 1er, il fait un parallèle avec l'arbre. Au verset 6, il dit, vous avez connu la grâce de Dieu, c'est comme les racines. Au verset 9, vous connaissez sa volonté qui vous aide à bien vous conduire et à porter du fruit comme un arbre. Au verset 10, ils ont la connaissance de Dieu, ce qui leur donne la possibilité d'avoir une croissance spirituelle et de grandir comme un arbre. Alors le Seigneur Jésus, dans cet épître, va se concentrer spécialement sur la personne du Seigneur Jésus. Il va rappeler qu'il est le premier-né de la création. Le sens du premier-né ici n'est pas la naissance, mais le fait qu'il est l'héritier, le premier. Il est répété qu'il est non seulement celui qui a créé toute chose, mais que les choses ont aussi été créées pour lui. Et en cela, on voit qu'il est Dieu lui-même. Puisque comme tel, il doit être aussi adoré. Nous avons rappelé que Dans l'adoration, on commence par se souvenir des ténèbres d'où nous sommes sortis. C'est le verset 13 du chapitre 1er. Ensuite, on va parler de louer les choses extraordinaires qu'il a fait. Par exemple, c'est le verset 16. Aussi l'œuvre qu'il a fait en nous acquérant le salut. Il est parlé au verset 20 du sang de sa croix. Et troisième partie, quand on s'approche toujours plus dans l'adoration de sa personne, l'homme s'efface lui-même, on ne se concentre plus sur l'homme. Mais sur le Seigneur, comme il est dit au verset 19, en lui toute la plénitude s'est plu à habiter. La plénitude de la personne de Dieu. Ensuite, au verset 18, il était rappelé qu'il est le chef du corps de l'Église. Dans la suite du chapitre, on a vu qu'il y a une réconciliation avec l'univers. Et aussi une réconciliation personnelle. On était autrefois étrangers et ennemis. Mais maintenant, le changement a eu lieu et puis le résultat de la réconciliation, c'est que nous sommes saints pour paraître devant lui. Ensuite, on a vu que l'apôtre Paul, il est en travail et en combat dans son ministère pour que Christ vive vraiment en nous. Dans l'épître aux Éphésiens, il parlait du croyant qui a déjà sa place au ciel. Une position céleste. Mais au verset 27 du chapitre 1er, il dit ici, c'est Christ qui est en nous. Et c'est à cela qu'il travaille pour que tout homme soit parfait en Christ. Maintenant, au chapitre 2, il dit qu'il combat pour eux. Aussi pour les frères et sœurs de l'Assemblée de
l'Odyssée.
Pour qu'ils aient vraiment la connaissance du mystère de Dieu. C'est là que sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance, et non pas dans la philosophie grecque, comme l'environnement dans lequel ils étaient les influençait. Donc ils désirent qu'ils aient une fermeté, on voit au verset 5, dans la foi. C'était déjà le cas et ils avaient aussi de l'ordre dans leur rencontre. Et il était nécessaire qu'ils marchent enracinés et édifiés, comme on voit au verset 7. Maintenant, l'apôtre Paul, depuis le verset 8, va entrer plus profondément dans les problèmes qu'il y avait à Colosse. Nous pouvons lire les versets 9 à 11. Nous pouvons commencer même par le verset 8 à 11.
Merci.
Alors nous voyons ici que la philosophie, ce n'est pas juste des théories vagues. Il est comparé ici à un prédateur. Un prédateur, c'est comme un léopard qui cherche une proie.
Et
les Colossiens étaient dans ce danger d'être une proie.
Les Colossiens étaient dans ce danger d'être
une comme une gazelle, il y a le léopard qui est juste derrière. Ce sont des choses vaines, des enseignements des hommes. Des éléments du monde. Mais ces philosophies cherchent à prendre le croyant. Alors qu'on voit au début du verset 10, on a tout en Christ. Lui qui est le chef de toute principauté et autorité. Bien au-dessus de toutes ces philosophies et autres choses. Alors il y avait eu ces derniers jours une question sur la circoncision. Le verset 11 nous en mentionne. Mais il dit, nous les chrétiens, ce n'est pas une circoncision physique, cette
main,
qui veut dépouiller une partie du corps, mais c'est la circoncision du Christ. Et là, il fait un rapport avec le baptême. Nous lisons le verset 12. Donc là, nous voyons que, nous savons que cette circoncision, il y avait un aspect spirituel, d'être dépouillé, mis à part pour Dieu,
et
ici, l'apôtre Paul fait un parallèle avec le baptême, qui exprime la mort et la résurrection. D'éliminer la vieille vie et de vivre en nouveauté de vie. Et on a cette foi puisqu'on sait que Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts. Nous savons que nous avons cette nouvelle vie, que nos fautes ont été pardonnées. Lisons la fin du verset 13 jusqu'au verset
15.
Ibanza,
Alors les Juifs, ils avaient reçu la loi avec beaucoup de règles. C'était une obligation avec des listes d'ordonnances. Et l'apôtre dit que ça nous était contraire. C'était difficile à observer tout ce qui était demandé. Mais ça faisait prendre conscience qu'il y avait des fautes et qu'il fallait payer ces fautes. Symboliquement, l'animal qui était offert en sacrifice prenait les fautes sur lui. Mais en fait, les fautes n'étaient pas vraiment enlevées. Mais ça parlait par avance du sacrifice de Christ qui un jour allait enlever ses fautes. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus a effacé cette obligation qui était contre nous. Il l'a enlevé, il l'a ôté en la clouant à la croix. Lorsque un malfaiteur était crucifié dans l'Empire romain, en haut, on clouait un papier qui mettait quelle était la faute, pourquoi il était à la croix. Alors, c'est ce que rappelle l'apôtre Paul. Il dit, sur le papier de la croix, c'est comme s'il y avait la liste de nos péchés à tous. C'est pour ça que le crucifié paye. C'est ça qui veut dire dans ce verset. Nos péchés, tous nos péchés ont été cloués en quelque sorte dans la personne du Seigneur à la croix. Maintenant le verset 15, il donne un autre aspect de l'œuvre de la croix. Il est de nouveau parlé des principautés et des autorités. Nous nous souvenons quand nous avons vu le sujet de Satan et des anges. Dans les anges qui ont suivi Satan, qui sont devenus des mauvais esprits, des démons. Il y a aussi des autorités, des principautés dans le mal. Et elles ont été précisément vaincues à la croix. Il a triomphé d'elles à la croix. Maintenant, produite en public, ça a un rapport avec quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié le vendredi saint, il y avait les chefs du peuple qui se moquaient de lui. Il y avait tout ce qui serait, qui se voyait à Jérusalem avec le peuple aussi qui regardait de loin. Mais il y avait une autre scène publique en même temps. Une scène publique dans le monde spirituel. Toutes ces principautés ont vu, ah, maintenant nous avons perdu cette guerre. On avait une puissance sur les hommes avec les péchés qu'ils faisaient. Mais maintenant que tout est payé, eh bien, on ne peut plus rien faire contre ceux qui croient. Alors, ces puissances du mal existent toujours. mais ils ont dépouillé, vaincu. En plus, les Romains, qui étaient très puissants, la plus grande puissance à l'époque, quand ils remportaient des victoires sur des populations dans leur guerre, ils prenaient les chefs et les officiers de l'armée ennemie, ils les liaient avec des liens, des chaînes, ils les amenaient à Rome, et il faisait un grand défilé, un grand cortège dans les rues de Rome. Avec la gloire, pour montrer la gloire des officiers romains, de l'armée romaine devant. Et après, il y avait les chefs de l'armée ennemie. Et des deux côtés de la rue, il y avait la foule des habitants de Rome. Qui regardaient la victoire du général romain et la défaite des ennemis. Alors ça, c'est la signification quand il est dit il les a produites en public. Quand il y a eu la croix, c'est comme si le Seigneur était un chef qui remportait la victoire sur l'ennemi vaincu. Cela a été vu aussi des anges dans le ciel. C'était comme des spectateurs de cette victoire extraordinaire. Et la défaite de tous les anges du mal. C'est pour bien montrer l'œuvre extraordinaire du Seigneur à la croix. Maintenant, nous continuons dans le texte. Et on voit qu'il y avait à
Colosse
des frères qui essayaient d'imposer des règles, des commandements que la Bible ne demande pas dans le Nouveau Testament. Il voulait obliger les gens d'observer des jours particuliers. Et des règles pour qu'est-ce qu'on a le droit de manger et de boire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Lisons les versets 16 et 17. Donc là, on voit qu'il y en avait qui essayaient d'imposer ces règles. Mais l'apôtre Paul, il dit, mais ça n'a pas d'importance, c'était comme une ombre autrefois, ces règles. Lorsque je me promène au soleil, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, on voit l'ombre de mon corps qui est par terre. Mais c'est juste une tache obscure avec la forme de mon corps, plus ou moins. Mais ce n'est pas moi-même. Si quelqu'un marche à côté de moi sur l'ombre, ce
n'est
pas important, ça ne va pas me faire mal.
Ce
qui est important, c'est ma personne moi-même.
Alors
ces règles de l'Ancien Testament, c'était comme des ombres qui voulaient révéler la chose elle-même. ces règles parlaient de ce qui allait venir, notamment le sacrifice de Christ. Remarquons qu'il y a dans ces règles qu'on voulait imposer à
Colosse,
il y a aussi les sabbats. C'était le samedi où les Juifs devaient se reposer et rien faire. Alors le Seigneur ne nous défend pas de nous reposer le samedi. Mais ce n'est plus une règle, une obligation comme avant. Malheureusement, il y a aujourd'hui des chrétiens qui pensent qu'il faut observer le sabbat. On les appelle les sabbatistes ou les adventistes du septième jour. Ils accordent une importance énorme à ce sabbat. Ça leur donne leur nom, leur dénomination aussi. Mais là, on voit qu'ils font un petit peu comme certains à Colosse d'imposer ce sabbat. Alors, ça nous aide à comprendre que c'est une déviation. Mais le verset 17 nous dit, le corps est du Christ, c'est ça vraiment qui est essentiel. Maintenant, il y avait d'autres déviations à
Colosse.
Maintenant, on va lire versets
18
et
19.
Ici, on voit qu'il y avait d'autres problèmes à Colosse. J'ai parlé hier dans l'introduction qu'il y avait cette philosophie qui s'appelle la gnose, qui s'intéresse notamment aux anges. Eh bien, on voit ici que certains voulaient imposer le culte des anges. Et ça leur donnait peut-être un rôle important. Mais l'apôtre Paul dit clairement que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ce qui est important au verset 19, c'est de considérer le corps de Christ. L'ensemble des croyants avec le chef qui est le Seigneur Jésus. Et on retrouve cette expression qui a un lien avec les articulations du corps. Comme les articulations aident à lier les parties du corps par des ligaments et des muscles,
et
bien de la même manière, le corps de Christ, il y a aussi une nécessité d'être bien articulé les uns avec les autres dans nos fonctions. Et ainsi, on peut grandir, croître selon Dieu. Maintenant, nous lisons encore le verset 21 et le verset 23.
Quoi,
Alors ces personnes qui voulaient faire dévier les Colossiens du bon chemin, ils disaient il ne faut pas prendre ça, ne pas manger ça, ne pas toucher ça. Ils se comportaient dur envers leur corps. Et en apparence, c'était comme une sagesse de renoncer au plaisir de manger. Mais l'apôtre Paul dit non, c'est juste en apparence que c'est de la sagesse. Il disait le corps, c'est pas important, donc il faut le négliger. Mais en réalité, l'apôtre Paul, il dit, c'est quelque chose de la vieille nature. Et cela donne comme une certaine satisfaction d'être supérieur, d'être comme ça, dur avec le corps. Et en fait, ça flatte la vieille nature, la chair. Alors, je ne sais pas dans la langue Chiluba, mais en français, la chair... Il faut bien discerner deux sens. Il y a la chair qui est le corps, qui fait partie de notre corps. Et puis souvent dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, la chair c'est la vieille nature, la nature
ancienne.
Alors ici, on trouve les deux dans ce verset 23. Ces gens faisaient comme s'ils méprisaient ou négligeaient, laissaient de côté la chair physique. Mais spirituellement, ils flattaient la vieille nature, la chair vieille nature. C'est quelque chose que l'on voit aussi dans d'autres religions, notamment dans les religions orientales, bouddhisme et hindouisme. Il y a des gens en Inde qu'on appelle des sadhus. C'est comme des saints, des êtres spirituellement supérieurs. Ils mangent très peu, ils se retiennent de manger plusieurs jours. Ils disent ne pas s'intéresser aux choses matérielles. De manger le minimum nécessaire. Pour être dans la méditation. Il y en a même qui s'asseyent sur des planches avec des clous. Pour se meurtrir le corps, pour dire moi je suis insensible aux choses de cette de matériel, mais je suis très supérieur au point de vue spirituel. Et ces gens sont beaucoup honorés par les hindous qui ignorent que c'est tout à fait faux. Cela donne comme une satisfaction de la vieille nature. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Et l'apôtre Paul avertit les Colossiens. Nous passons maintenant au chapitre 3. Et nous lisons le verset premier. Alors il faut regarder les choses qui sont en haut quand on est chrétien. Les choses du ciel où se trouve le Seigneur Jésus. Ces C'est de cela que nous devons être préoccupés principalement.
Et
les choses de la terre, naturellement, nous devons vivre notre vie de tous les jours.
Nous
devons pas être concentrés là-dessus comme si ça prend toute la place par rapport au Seigneur. Nous avions déjà vu dans les Éphésiens l'ancienne et la nouvelle nature. L'apôtre Paul va reprendre ces choses aussi pour les Colossiens. Pour bien faire réaliser ce que cela implique, la marche du nouvel homme en Christ. Il va aussi faire le rapport avec un habit qu'on enlève, un vieil habit qu'on enlève et un nouvel habit qu'on remet. Un nouvel habit qu'on met et qu'on revêt plutôt. Alors il y a d'abord une liste de choses mauvaises qu'il va nous donner. Une partie qui est vraiment des choses graves qui devraient être complètement mortes dans nos vies. Et une partie qui sont mauvaises mais qui peuvent malheureusement arriver des fois chez les croyants. Les premières choses doivent être considérées comme mortes dans nos vies. Et les deuxièmes choses, on doit faire l'effort d'y renoncer. Si on est libre dans le nouvel homme, on n'a plus besoin de faire ces choses. Pour les premières choses, les choses vraiment graves, lisons les versets 5 à 7. Alors ici nous voyons des choses qui sont vraiment des choses mauvaises et graves. Notamment la fornication qui est toute relation intime en dehors du mariage. Il est parlé des affections déréglées. On doit aussi les nommer, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord. Malheureusement, il bouge beaucoup ceux qui ont ces affections déréglées. Ce sont notamment les homosexuels qui veulent être reconnus comme normal. Mais la Bible dit que c'est des affections déréglées graves. Il est aussi parlé de la cupidité qui est de l'idolâtrie. Nous avons tous besoin d'argent pour vivre. Mais la cupidité, c'est ceux qui ont une passion pour l'argent. Il peut avoir peu ou beaucoup, mais c'est quelque chose pour eux qui est primordial.
Et
quand l'argent a tellement d'attention dans la vie d'un croyant, c'est de l'idolâtrie.
Et
l'apôtre Paul dit que ces choses-là, c'est à cause de cela qu'il y a de la colère de la part de Dieu. Alors il dit aux Colossiens, comme qui étaient en majorité des Grecs, Eh bien, autrefois, vous faisiez aussi ces choses parce que vous ne saviez pas que c'est grave. Mais maintenant, ça ne doit plus exister pour les chrétiens, ça doit être comme mort, mortifié. Maintenant, nous lisons les versets 8 à 11. Pour la deuxième partie des choses à éviter.
Ubula muntu mukulukulu nejenze tibyanji. Nwakalu ata muntu mukamuja. Uji ubuijibwa mukamuja. Mujumanya jireleda. Mungu ti simpwa nikiji. Chavu. Mungu ki.
Nungu.
Kanwena wapikala mwena ngejika. Numwena yuda. Mwena jisemula. Na ujikali mwana jitemula museji mwana musekutia mufika ne mujishika mine kadikiristo ujimalu onto ne ujimumalu onto.
Alors il peut arriver qu'un croyant se fâche et ne se contrôle plus. Qu'il profère des injures ou des paroles honteuses. Nous savons que ça ne devrait pas arriver.
Et
c'est pour ça qu'il nous est dit de renoncer à cela. De renoncer aussi à la malice, c'est-à-dire d'essayer de faire des calculs malins pour obtenir des avantages.
Et
des avantages aux dépens de quelqu'un d'autre. Il est aussi dit qu'on doit renoncer aux mensonges. Tout ça, c'est des choses qui caractérisent le vieil habit, le vieil homme. Il faut l'avoir enlevé, ce vieil habit. Est revêtu l'habit du nouvel homme. Donc notre connaissance, notre compréhension doit être renouvelée. Selon l'image de celui qui l'a créé, à la fin du verset 10, c'est-à-dire notre Créateur, et nous avons vu le Seigneur Jésus dans les évangiles comment il a vécu.
Et
le verset 11 nous parle de différentes nationalités. Alors ça ne veut pas dire qu'on perd, on vit dans une société, dans un pays, on ne perd pas la nationalité que nous avons. Mais lorsqu'on est en Christ, ce n'est pas important d'être juif ou grec, d'être homme libre ou esclave, d'être circoncis ou incirconcis.
Ce n'est
pas important d'être suisse ou congolais. Tous deux, nous faisons partie du mot qui est dit barbare. En fait, ce mot veut dire, à l'origine, c'est les populations que les Romains ne comprenaient pas. Ou que les Grecs ne comprenaient pas. Il disait ces gens, ce n'était pas forcément péjoratif dans le sens qu'ils étaient moins bien. Mais lorsqu'ils parlaient, on avait l'impression qu'ils disaient barbare, 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 comme ça. On ne comprenait pas ce qu'il disait. En Sicile, dans la région d'Italie où d'où vient Christina, ma femme, ils ont un verbe quand ils ne comprennent pas les gens qui s'appelle barbacciare. C'est encore utilisé aujourd'hui. En fait, ça veut dire tous ceux qu'on ne comprenait pas. Par exemple, les populations allemandes du nord de Germanie, pour les Romains, c'était des barbares. Les populations d'Afrique du Nord qui étaient là avant les Arabes, les Romains ne les comprenaient pas. Et ils disaient ce sont des berbères. C'est la même chose, berbère, barbare. Ça vient des Romains. Alors voilà pour dire le sens. Le sens de l'apôtre Paul, ce n'est pas un sens négatif, il dit simplement ceux qui n'étaient pas compris par le monde grec et romain. C'est pour ça que ce qui est important pour les croyants, c'est d'être né de nouveau. De ressembler au Seigneur Jésus. Et nous avons de nouveau cette idée du corps de Christ auquel on appartient. Et notre condition sociale ou notre nationalité n'est pas importante. Nous continuons et nous allons maintenant lire les choses positives que nous devrions avoir. Nous lisons le verset 12. Et le début du verset 13. Alors, en quoi consiste ce nouvel habit que nous devons mettre en filet? Alors, c'est beaucoup de gentillesse les uns vers les autres. De la bonté, de la douceur, aussi de l'humilité. Dans un autre passage, il est dit qu'on devrait considérer chacun des autres comme supérieur à nous. Il est aussi dit de nous supporter les uns les autres. Alors ça, c'est pas toujours facile. On a des caractères différents, des situations de famille différentes, des situations de travail différentes. Et lorsqu'on doit vivre dans une assemblée locale, cela crée des fois des frottements, des tensions. On peut penser, ah, il m'énerve celui-là avec son caractère. Et puis celle-là, elle revient toujours avec les mêmes idées. Et ça peut faire monter des tensions. C'est pour ça qu'il nous a dit, ce nouvel arbre, ce nouvel habit, il comporte aussi de se supporter les uns les autres. Dans un club, on choisit les autres, plus ou moins, avec qui on va être. Par exemple, un club de fans d'une équipe de football, on va choisir d'aller dans ce groupe. Si je vais entrer dans une chorale, je vais choisir parce que je sais qu'ils aiment ce style de musique pour chanter là-dessus. Mais lorsque nous sommes dans une assemblée locale, ce n'est pas que nous choisissons les personnes qui vont faire partie. C'est comme une famille. On est dans la famille avec différents caractères. C'est pour ça que nous sommes encouragés à nous pardonner aussi les uns les autres. À nous pardonner aussi les uns les autres. C'est, on ne va pas le lire maintenant, mais le verset 13 dans l'ensemble, peut-être on a lu un petit bout, on peut avoir des fois des sujets de plainte. Alors on est encouragé à faire comme le Seigneur Jésus qui nous a pardonné. Lisons maintenant le verset 15. Juste avant, il y avait le verset 14 qui nous encourage aussi à revêtir l'amour. Ça nous aide à améliorer les liens les uns avec les autres. Et alors il y aura la paix du Christ. C'est de nouveau dit, vous êtes appelé à être en un seul corps. C'est toujours important de témoigner à cette idée d'unité d'un seul corps. Et puis cette paix, elle doit avoir dans nos cœurs une place de président. Ça veut dire la recherche de la paix, elle doit aussi dominer en nous. Et à la fin de ce verset, soyez reconnaissants. Que l'on reçoive des petites choses, des grandes choses de la part du Seigneur, il y a toujours des raisons d'être
connus.
Maintenant, nous lisons le verset 16. Et c'est intéressant de le lire. Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Entre parenthèses, excusez-moi, je n'ai pas été refroidi par un hiver à 1000 mètres en Suisse. Et quelque chose en arrivant dans le voyage m'a donné un refroidissement même au Congo, ça peut arriver. Mais ce n'est pas que je manque de chaleur, merci. Alors ce verset est très intéressant que nous venons de lire. C'est de nouveau un verset, chapitre
3,
verset
16.
Comme il y en a plusieurs dans la parole qui sont importants. On connaît bien Jean
3, 16.
Alors lorsque le monde chante, ou lorsque les chrétiens chantent, lorsqu'on chante des chants, il y a plusieurs aspects. Il y a dans un chant le rythme qui va battre la mesure. Qui va battre la mesure. La mesure. Il y a la mélodie qui va guider le son. Il y a les harmonies qui vont arranger des notes ou des instruments ou des sons de voix différents ensemble. Et puis il y a les paroles. Alors qu'est-ce qui va être le plus important? Alors dans le monde, souvent, c'est peut-être le rythme, comme ça.
Ah.
Quand on a envie de s'exciter ou de s'éclater, comme on dit, peut-être encore plus chez les jeunes, comme ça. La mélodie est aussi importante pour avoir du plaisir à écouter avec nos oreilles.
Ah.
Et nous savons qu'il y a des compositeurs comme Mozart, par exemple, ou bien Jean-Sébastien Bach, qui ont fait des mélodies magnifiques. Mais ce n'est toujours pas le plus important. Dans ce verset, on voit que le plus important quand on chante des cantiques, c'est les paroles. Les paroles du cantique doivent nous aider à ce que Christ habite en nous. Lorsqu'on chante ensemble des cantiques, ça peut être aussi tout seul en écoutant une musique enregistrée d'un cantique. Le but principal que nous avons, c'est de faire habiter la parole du Christ en nous. Et de la faire habiter richement. On peut lire la parole de Dieu. Il faut lire aussi. On peut apprendre des versets par cœur. C'est notamment important pour les enfants, pour les jeunes qui ont une mémoire qui fonctionne plus facilement. Quand on devient plus âgé, on a plus de peine à retenir les choses. Donc il faut profiter quand on est jeune. Je suis frappé, mes enfants, quand ils écoutent quelquefois une musique comme ça à la radio. Tout à coup, ils arrivent à répéter le chant et les paroles. Moi, j'arriverai pas en quelques fois à répéter si vite. Donc, c'est important aux jeunes d'apprendre les versets de la parole. Mais il y a aussi les chants chrétiens, les cantiques chrétiens qui vont nous aider à apprendre la parole de Dieu. Et c'est ça que dit ce verset. Il dit, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par les cantiques. Il y a différentes sortes de cantiques. Ça peut être des psaumes mis en musique. Des hymnes qui sont plutôt avec l'adoration. Mais le but doit être de nous enseigner et de nous exhorter. Donc quand on chante un cantique, on devrait apprendre quelque chose de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à mesure qu'on grandit en âge, on devrait être capable de chanter des cantiques plus compliqués. Et pas simplement répéter 10 fois, Alléluia, je t'aime mon Dieu, merci, merci,
merci.
Ce ne sont pas des paroles mauvaises. Mais il faut aller plus loin. Ces paroles, Samuel Jacquard, il peut les chanter. Mais quand il va grandir, il va apprendre des chants plus difficiles. Et puis, comme ça, la parole de Dieu va nous aider à habiter dans nos cœurs. Et à la fin, on va pouvoir remercier, comme il est dit au verset
17.
Tout ce que nous faisons, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Alors, apprenons à nos jeunes aussi à rechercher des cantiques et des chants, non seulement qui ont une jolie musique, mais qui leur apprennent quelque chose de la parole de Dieu. Maintenant, il y a un passage qui va du chapitre
3, verset 18.
Jusque au chapitre Inaï, versa Umwe.
Jusqu'au chapitre 1, chapitre 4, verset 1.
Je ne vais pas beaucoup m'allonger sur ce chapitre. Chacun peut les lire pour lui. Ça reprend un peu ce qu'on a vu à l'épître aux Éphésiens. Ça veut dire qu'il y a des relations d'autorité entre mari et femme, entre parents-enfants. Je fais un stop pour le changement. Donc, je disais qu'il y avait ces relations d'autorité et de soumission entre mari et épouse, entre père et enfant, entre maître et esclave ou employé, avec la nécessité de chercher à servir comme si on sert le Seigneur Jésus. Et d'être soumis comme pour plaire au Seigneur. Ce sont des relations avec des rôles différents qu'aujourd'hui on cherche à éliminer, à mettre de l'égalité partout. Ou même d'inverser ces relations d'autorité. En Europe, depuis quelques dizaines d'années, on parle de l'enfant roi, qui a tellement d'attention qu'il faut lui faire tous ses plaisirs. Au point qu'ils se mettent ensuite en grandissant à commander les parents. Et c'est quelque chose qui n'est pas selon la parole de Dieu. Donc on ne va pas s'attarder sur ces versets et nous passons au chapitre 4, verset 2. Nous pouvons lire le verset 2.
Tu dis tout le vers de Moïse.
On voit que l'importance de la prière est soulignée ici.
Tu dis tout mon ami, belle mouchon, il faut dire sambila.
Avec des remerciements.
Dis sambila, nettoie ça qui dit.
L'apôtre Paul va demander au verset 3, nous ne le lisons pas, mais il va demander pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu, le mystère de
Christ.
C'est ça qui est important pour lui, il ne demande pas qu'il soit libéré, mais qu'il puisse annoncer la parole. C'est dans ce sens qu'il dit que l'on est une porte ouverte. Le verset 5 va nous dire de marcher avec sagesse. Il y a cette expression envers ceux du dehors.
kuji bo chibaje chitakule kumweneka kuji bene pambele.
Il revient plusieurs fois dans la parole.
Kidi chipinga nene misao yabuni mumifundi.
Alors ceux du dehors, ce sont les non-croyants. Externe à l'assemblée de Dieu. C'est un comportement différent que nous avons que celui que nous avons envers les croyants. Qui sont ceux du dedans, en quelque sorte. Font partie du corps de Christ. Alors il est dit aussi que notre parole soit comme assaisonnée de sel. Comme avec du bon goût. Pour savoir comment on va répondre à chacun. Maintenant, nous abordons la dernière partie. Avant le verset 18 qui est les salutations. Les versets 7 à 17. Là, nous avons plusieurs personnages bibliques. J'en ai mis quelques-uns importants au tableau noir. On a déjà parlé de
Epaphras.
C'est lui qui avait annoncé l'évangile à Colosse. C'était retenu prisonnier avec l'apôtre Paul. On a vu aussi le fidèle frère Tichic. Qui est mentionné dans ces versets. On
ne
va pas tous les lire en détail, mais chacun peut les lire après. C'est lui qui va porter les lettres. Il y a le frère Onésime. C'est intéressant de lire son histoire dans l'épître à Philémon. C'est un esclave qui avait fui un maître chrétien en volant probablement un peu d'argent pour le voyage. Il n'était pas croyant et il espérait s'échapper à Rome et puis trouver un travail. Mais voilà qu'il arrive à Rome vers les prisons et il fait connaissance de l'apôtre Paul. Rencontrer un chrétien, c'était probablement la dernière personne qu'il désirait rencontrer. Mais des fois, Dieu il conduit les choses d'une manière étonnante. Il écoute l'apôtre Paul et voilà qu'il se convertit au Seigneur. Alors il va revenir mettre les choses en ordre à
Colosse.
Accompagné de la lettre à son maître Philémon. Ensuite il est parlé de Marc. Nous lisons pour cela le verset 10. Alors pour Marc, c'est une histoire intéressante, il avait fait partie du premier voyage de l'apôtre
Paul.
Quand ils étaient partis d'Antioche, ils avaient été dans une île qui est Chypre, qui se trouve ici. Avec Paul et Barnabas. Barnabas était son nom. Probablement que Marc était un jeune converti. Ensuite, ils étaient partis évangéliser dans cette région, pas très loin de Colosse. Et là, il avait abandonné Paul et Barnabas. Probablement qu'il était un peu jeune pour affronter cette évangélisation. Probablement il s'était découragé. Et il était parti, il les a quittés
abandonnés.
Probablement il est retourné chez lui. Et les assemblées, ils avaient eu connaissance de ça. Alors on ne sait pas exactement comment l'assemblée de départ a réagi et qu'est-ce qu'elle a décidé. Mais il y avait eu une certaine façon de discipline, probablement. Parce que d'autres assemblées ne voulaient plus le recevoir. Après, il y a eu un travail dans le cœur de Marc. Probablement une certaine repentance de son comportement qui n'avait pas été bon. Et il y avait eu une restauration, il avait retrouvé la communion des frères et
sœurs.
Et afin que toutes les assemblées le sachent, une communication avait été faite de la part de son assemblée de départ aux autres assemblées. Vous dire, si vous avez entendu des choses négatives sur Marc, maintenant il est de nouveau en ordre avec nous. C'est ça que veut dire quand Paul dit, s'il vient vers vous, recevez-le. Juste avant, il a même dit, vous avez reçu des ordres. Ça veut dire que son assemblée de départ qui avait pu remettre les choses en ordre avec Marc, elle avait communiqué ça aux autres en disant, maintenant il faut le recevoir qu'il voyage,
Marc.
Les choses sont en ordre avec lui maintenant. Nous voyons là le lien qu'il y avait entre les assemblées. Une assemblée prenait une décision, c'était aussi valable pour les autres. Et si Marc venait un jour peut-être à Colosse, peut-être qu'il avait ce désir. L'assemblée de Colosse ne devait pas dire, ah, mais on a entendu dire que tu t'es mal comporté, on ne va pas te recevoir à la communion. Non, parce qu'une lettre avait été écrite pour dire les choses sont en ordre. Et on voit ce lien qu'il y avait dans les assemblées du début du christianisme. Pour exprimer ce un seul corps que l'on revoit toujours beaucoup dans ces
épisodes.
Et ensuite, Marc a même été très utile pour l'apôtre Paul.
Puisqu'on
le voit dans ses dernières lettres, il est même utile pour l'apôtre Paul et qu'il demande qu'il vienne. Donc quand quelqu'un s'éloigne du Seigneur, ce n'est pas perdu, il faut même le rechercher. Et chercher à mettre les choses en ordre et le communiquer. À la fin de ce passage, on parle de
archive.
Lisons le verset 17. Archip, on le trouve aussi dans l'épître à Philémon. Plusieurs supposent que c'était le fils de
Philémon.
Donc il était connu dans l'assemblée de Colosse. Quand la lettre est arrivée à Colosse par le
prêtre,
la lettre a été lue probablement en public devant toute l'assemblée.
Et
probablement que Archip il était là. Alors peut-être qu'il est devenu tout rouge, tout émotionné. Parce que devant tout le monde, Paul dit, Archip, prends garde. Prends garde au service que tu as reçu. Afin que tu l'accomplisses. Il est bien possible que Epaphras avait raconté à l'apôtre Paul. Archip, il a un service pour le Seigneur. Mais il ne le fait pas.
Ou
bien il le fait trop peu. Alors l'apôtre Paul prend cette occasion de le reprendre un peu. Mais positivement, pour que Archip soit réveillé dans l'accomplissement de
ce projet.
Voilà, on s'arrête ici, on a terminé cet épître. Ensuite, il y a les salutations de Paul. Chacun peut lire encore les versets qui précisent que les lettres devaient être lues dans les différentes assemblées. Alors, gardons-nous aussi de tout ce qui pourrait nous dévier du Seigneur Jésus. Que la personne du Seigneur Jésus devienne toujours plus précieuse à nos yeux. Lui en qui la plénitude de la déité a habité corporellement. Lui qui est le créateur, car toutes choses ont été créées par lui et pour lui.
Merci beaucoup.